carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous sommes aujourd'hui sur les traces de François-René de Chateaubriand, à la Vallée aux Loups, à Châtenay-Malabry, où a vécu le grand écrivain, certainement pour les plus belles années de sa vie. Et nous sommes en compagnie de Jean-Paul Clément, directeur de la maison de Chateaubriand, correspondant de l'Institut de France et président de la société Chateaubriand. Merci Monsieur Clément de nous recevoir aujourd'hui. C'est donc cette fameuse maison qui a vu passer les décennies de vie de Chateaubriand que nous allons peindre ensemble. Et pour cela, Monsieur Clément, je vous propose de commencer par tirer un portrait de l'auteur, mais aussi de l'homme politique, du fervent catholique, du grand voyageur.
Oh, c'est beaucoup, beaucoup en une seule question. Ce que je pourrais dire, c'est que Chateaubriand est un homme d'une grande indépendance. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais rallié à des pouvoirs. Même les Bourbons qu'il avait servis, ou Napoléon, il n'est pas un homme courtisan. Et c'est un homme de liberté. Et il sera, sous la Restauration, l'homme de la liberté de la presse. Ça, je crois, c'est extrêmement important. Et là où nous sommes, ici, à la Vallée aux Loups, eh bien, c'est là qu'il écrit « De Buonaparte et des Bourbons », qui est véritablement un pamphlet extraordinaire qui va jouer un rôle que Louis XVIII reconnaîtra dans la chute de l'Empire. Alors, la chute de l'Empire, eh bien, qui est Chateaubriand, il est très célèbre. Il est rentré en 1800 de 7 ans d'exil en Angleterre. Il a beaucoup appris. Il a publié un essai sur les révolutions, où il compare les révolutions antiques, grecques en particulier, et les révolutions modernes, celle d'Angleterre avec Charles Ier, et l'autre en 1789 avec Louis XVI. Et Chateaubriand rentre en 1800. En 1801, il publie Atala. Et Atala est une véritable révolution littéraire dont on n'a aucune idée aujourd'hui. Il y a tant de livres qui paraissent. Plus ils se multiplient et moins on les lit. Atala, véritablement, bouleverse la société des Lumières, ceux qui en subsistent en tout cas. Un ami de Chateaubriand, ou en tout cas qu'il a rencontré, qui est Chamfort, par exemple, s'est suicidé. Condorcet aussi. Bon. Donc, les Lumières, qui reçoit-il des survivants des Lumières? Mais ils sont très puissants à l'Institut, puisque l'Académie française a été supprimée par la Constituante. Donc, il y a des instituts avec des classes. Donc, Chateaubriand, qui sera d'ailleurs membre d'une de ces classes grâce à Napoléon, qui l'admire parce qu'il voudrait être le nouvel Auguste et avoir le grand écrivain du siècle. Et bon, la cohésion ne se fait pas. Chateaubriand écrit un discours de réception et puis ce discours est rayé à birato par la griffe du lion qui est celle de Napoléon, et il refusera de prononcer son discours de réception, donc il ne sera jamais reçu. Et encore au début de la Restauration, il ne peut pas siéger parce qu'il n'a pas été reçu. Donc, un homme indépendant, et la Vallée aux Loups représente, lorsqu'il s'y installe, en 1807, il est de retour de son itinéraire de Paris à Jérusalem. C'est un voyageur. Il sera en 1822 l'un des vice-présidents, le deux vice-présidents, il y en a deux, de l'Institut de géographie qui se crée à cette époque-là, qui est une grande époque. Chateaubriand donc s'intéresse à la géographie, à l'histoire, au voyage. Donc 91, c'est l'Amérique. 1806-1807, c'est la Méditerranée, la Grèce, bien sûr, Jérusalem, l'Égypte, Carthage. Bon, tout ce qui, pour un homme nourri d'humanité comme Chateaubriand, représente en quelque sorte une composition littéraire et extraordinaire. Donc, il est là, il publie un article dans le Mercure de France où il compare Napoléon, qui est au fait de sa puissance. Eh bien, il le défie. Et le canal Fesch, auprès duquel il avait été un modeste secrétaire de légation en 1803, le montre à son neveu Napoléon, retour de Tilsit, qui est encore une fois le sommet de l'Empire, et la colère de l'empereur est vigoureuse, c'est l'ire de l'empereur. En même temps, on ne touche pas à Chateaubriand. On ne touche pas à Chateaubriand. Et simplement, Chateaubriand se retire. Il avait commencé cette modeste carrière diplomatique en 1803. Le canal Fesch était un passage impossible, mais il a vu l'Italie. Et pour un homme qui vient du Nord et de l'Est, qui a vécu aussi en Angleterre pendant 7 ans, ce fut une découverte extraordinaire. Et il écrira à Fontane, qui est son ami, qui deviendra le grand maître de l'université impériale, mais qui reste son ami, même s'il tremble et qu'on se nomme le lapin. Je ne sais pas si les lapins tremblent, mais en tout cas, il s'installe ici, à la Vallée aux Loups, et dans un lieu qui est un lieu sauvage. C'est vrai que les Parisiens commencent à s'y installer, à construire des villégiatures, les Girardins, les Ségur. Enfin, on voit des propriétés qui commencent à naître au milieu de ces grandes étendues qui communiquent avec Sceaux d'un côté et avec la forêt de Verrières de l'autre.
Pardonnez-moi, d'où vient ce nom, la Vallée aux Loups ?
Bien, la Vallée aux Loups est un nom très ancien. Tout simplement, et je vais décevoir peut-être ceux qui m'entendront, mais parce qu'il y avait des loups, il y a à Châtenay-Malabry une rue du Loup Pendu, du Loup Vert. Donc les loups étaient là, et jusqu'en 1893, j'espère ne pas me tromper, on a tué le dernier loup. Donc un lieu très sauvage. Il y a quelques pommiers et une petite maison dont on ne saura jamais rien. Chateaubriand parle de maison de jardinier. C'était une maison tout de même plus cossue que cela, je pense. Mais il va y imprimer sa marque. Et cette maison peut être appelée vraiment la maison de Chateaubriand. C'est pourquoi je tiens à ce lieu et à ce nom. Chateaubriand, ce n'est pas le château, c'est une maison. Et c'est une maison d'écrivain. C'est-à-dire que tout ce qui, brusquement, dans ce moment d'exil intérieur et de grande fécondité intellectuelle, parce que c'est tout de même là que Chateaubriand commence à écrire les mémoires d'outre-tombe, donc pas encore ce titre-là, c'est les mémoires de ma vie, mais il est là. Donc, hors de Paris, il va, d'une part, planter son parc, et ce parc est un voyage immobile. Chateaubriand a cessé d'être un nomade. Bien. Nomade en France avant la Révolution, il est ici, il est à Paris, il est à Cambrai, il est à Brest, il rêve des voyages parce qu'il voit l'expédition de la Pérouse qui arrive et il est transporté. Malesherbes, qui est un grand-parent par alliance, lui ouvre sa bibliothèque et il découvre la botanique et il s'y passionne parce qu'il y a du Rousseau dans Chateaubriand. Et donc tout cela a fait un voyageur, et c'est pourquoi qu'en 1791, il fait ce voyage en Amérique, où il rencontre, contrairement à ce que l'on a dit, mais que Painter a bien défini, il a bien rencontré Washington, pas au début, mais à la fin. Bon. Et donc le parc est là, comme dans un moment suspendu, où il va planter ses arbres. Madame de Chateaubriand est à côté, c'est la première fois qu'elle le rejoint après 10 années d'exil pour elle. Bien, et d'ailleurs, ils se taquinent mutuellement pour savoir si on met un arbre. Il ne veut pas faire un jardin anglais. Ce ne sera pas non plus un jardin à la française. Le temps est passé. Mais il va, et c'est là, je crois, l'une des originalités de Chateaubriand, c'est planter un parc qui lui rappelle là où il regarde, avec ses deux cariatides qu'il a constituées de grand péricile de la maison sur un fond de briques. Eh bien, il peut contempler ses voyages dans une sorte de voyage immobile, mais en même temps, c'est le voyage qui est créateur, c'est le souvenir de la Grèce, de l'Espagne.
Il disait par ailleurs que l'immensité est dans l'homme.
Mais oui, exactement. Et je peux dire que nous allons, à l'automne, réunir, et les réactions sont excellentes, déjà de l'Italie, de la Grèce, de l'ambassadeur des États-Unis. Je leur ai proposé de venir à la Vallée aux Loups, et dans une grande réunion symbolique, eh bien, que chacun vienne planter l'arbre qui lui semble le plus représentatif de son pays. Le Saint-Sépulcre, où il est allé, où il a été adoubé, chevalier du Saint-Sépulcre. Et André Damien en sait quelque chose, puisqu'il en est le lieutenant général de France. Eh bien, le custode, puisque c'est un custode, tel est son nom, va venir avec un olivier. Alors, je ne sais pas si on pourra le garder dans le parc, mais on le conservera avec les orangers que nous avons installés. Mais vous voyez, l'intérêt immédiat qui s'est porté, et l'ambassadeur des États-Unis m'a écrit en disant « Mais nous avons une très grande admiration pour Chateaubriand, et nous sommes heureux de nous souvenir de lui, et je viendrai. » Donc, ce sera symbolique, ce n'est pas lui, mais comme on pose des pierres pour des monuments, pour d'autres choses, là, ce sera en novembre une chose importante.
C'est un très beau geste. Pouvons-nous revenir à l'arrivée de Chateaubriand ici? En quelle année? Comment découvre-t-il l'endroit? Comment démarre-t-il sa vie ici?
Eh bien, en 1807, il rentre épuisé, malade. Il est très malade. Et ici, Madame de Chateaubriand fait preuve d'un dévouement qui est un dévouement aussi réciproque parce qu'elle aussi est malade. C'est une sorte de tisie rampante, mais lui tombe malade. Mon sentiment, c'est que à force de boire pour le symbole l'eau du Jourdain ou du Nil, je crois que une bonne typhoïde l'a certainement. Et puis comment voyager? Le voyage est dangereux. Il n'a pas de moyens. Comme en Amérique où il a fait une expédition à ses propres frais, c'est-à-dire avec presque rien. Certes, pour l'itinéraire de Paris à Jérusalem, il a les recommandations de Talleyrand, qui est ministre à l'époque, et qui envoie des lettres aux différents consuls. Mais c'est tout de même un voyage dangereux. Il y a des pillards, il y a des bandits. On est en pays turc. Et donc, c'est une grande aventure. Aventure qui, avec des naufrages qui n'ont pas lieu, heureusement, parce qu'il s'en sauve, mais partant de Tunis après Carthage, il dit que c'est 40 jours de mort répétée jusqu'à Algésiras, où il arrive. Donc, Chateaubriand écrit cet article dans le Mercure de France contre Napoléon à propos d'un voyage d'Alexandre de Laborde qu'Alexandre avait fait en Espagne, et Alexandre de Laborde était le frère de Nathalie de Laborde, duchesse de Noailles, et c'est pour retrouver à Cordoue, en fait, à Grenade, Nathalie, qu'il prétend, mais il y a aussi ce voyage, ce goût de l'aventure. C'est un aventurier, c'est une sorte de Malraux du XIXe siècle. Et il retrouve Nathalie. Et donc il fait, hein, parce que Alexandre de Laborde est extrêmement riche, fils de fermiers généraux, il a survécu à la Révolution alors que son père a été guillotiné, et il fait cet article où il compare à Napoléon, à Dioclétien persécutant les chrétiens, et lorsque tout est silence, et lorsqu'on n'entend plus que la chaîne de l'esclave s'élève, celle de l'historien, c'est Tacite. Bon, donc il devient déjà le Tacite de Napoléon, et ce sera dans les mémoires d'Outre-Tombe qu'il va le faire. Et donc, pourquoi le sud, dans ce village d'Aulnay? Village d'Aulnay, il faut l'imaginer, avec une petite colline, des vignes, quelques laboureurs, et tout cela relevant de l'abbaye Sainte-Geneviève. Bon. Donc c'est un endroit qui est un endroit, une sorte de non-lieu, mais merveilleux pour l'imagination. J'en ai parlé pour le parc, j'en ai parlé aussi pour la maison et avec ses cariatides et ses colonnes de marbre noir de Paros. Et là, eh bien, il va s'y installer et s'opposer à l'Empire. Et je crois qu'on peut très bien reprendre la conception de Pascal. Il y a les forces de l'esprit. Et donc, c'est le plus grand écrivain de cette époque. Et donc, il est quasiment invulnérable. Et Napoléon le déteste et l'admire. Et Chateaubriand l'admire et le déteste. Bon, mais entre ces deux hommes, que Chateaubriand, peut-être de manière un peu excessive, mettra en relation dans les mémoires, j'étais simple jeune officier, lui, il était déjà général, bon, peu importe, il va véritablement s'installer dans cette maison et y rester une dizaine d'années. Mais cette maison est la sienne, il l'a reconstruite et plantée autant qu'il a pu, parce que sa fortune n'est pas considérable. Catala n'est pas protégé comme aujourd'hui par les droits d'auteur. Donc il court à travers la France, à Avignon en particulier, pour dénicher les contrefacteurs. Et donc ce n'est pas grâce à Atala, et il dit c'est au désert, au grand désert d'Atala, que je dois le désert de la vallée au loup, parce que c'est un lieu aussi de méditation. Il faut prendre le mot de désert, d'ailleurs, dans son sens du XVIIe, peut-être qu'il le reprendra dans la vie de Rancet à la fin de sa vie. C'est-à-dire que c'est un lieu où l'on se retrouve en soi-même, c'est un lieu spirituel, très fortement spirituel.
Vous disiez une personnalité intègre, libre, toujours fidèle à ses idées, quitte à flirter quelquefois avec la pauvreté ou la solitude. En quoi cet endroit a vu justement des moments très longs de solitude ou de pauvreté même ici?
Alors, de solitude, il y a cette image extraordinaire parce que la vallée au loup est devenue très rapidement un lieu célèbre. Donc le désert, contrairement à ce que Chateaubriand pouvait penser, il est Chateaubriand. Et si on le dénigre d'un côté, on l'admire beaucoup de l'autre. Et les premiers écrivains romantiques, et je pense à Lamartine, vont venir très rapidement. Ils sont encore tout jeunes. Lamartine est né en 1790 et Chateaubriand en 1768. Et donc Lamartine, avec son ami de Virieux, vient à la vallée aux loups. Et que voit-il? Eh bien, rien le premier jour. Puis deux, il s'accroche dans les arbres. Châtenay, c'est le châtaignier. On voit très bien là l'origine. Donc il revient une seconde fois. Il traverse Fontenay-aux-Roses, qui n'est à l'époque qu'une roseraie. Il faut imaginer cet endroit extraordinaire. Une roseraie, des champs, Clamart, où on fait des cultures maraîchères, puis la roseraie de Fontenay. Et on arrive ici dans un lieu qui communique avec Verrières. Donc, il s'accroche à un arbre et il voit Chateaubriand. Petit, très belle tête, très beau buste, mais petit. Sortir de sa maison et de l'escalier qu'il avait racheté en occasion qui venait d'un brick anglais. Donc vous voyez le voyage, hein, il est hautement symbolique. Bon. Chateaubriand sort, il est petit, noir, il avance, il y a un chat, car Chateaubriand adore les chats. Mais on sait que les chats sont aussi des chats solitaires. Et un jour, en 1828-29, il recueillera le chat du pape, Léon XII, à sa mort, et il reprend le chat qui sera évidemment fêté, non pas ici, mais à l'abbaye aux bois. Et il voit sortir Chateaubriand, lancer quelque chose à son chat, et puis s'enfoncer dans la verte nuit d'un grand chemin.
Revenons à la maison en elle-même. Quel lieu, quelle pièce ou quel objet pourrait symboliser Chateaubriand, pourrait parler de Chateaubriand?
Bien, je crois qu'il y en a, il y en a plusieurs. Tout d'abord, je parlais d'Atala. Et Atala, je crois que ce roman n'est plus guère lu aujourd'hui. À tort. Mais c'est vraiment le romantisme qui entre, en trombe, dans et bouscule la littérature un peu desséchée du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Il y a eu les grands moments du siècle des Lumières, et puis après, il s'est vraiment très, très atténué. Et donc, Atala, c'est l'immensité, c'est la nature massive, ce sont des personnages exotiques, ce sont vraiment... Et puis, Atala est, en quelque sorte, l'avant-poste du génie du christianisme. Donc, c'est le retour du christianisme avec Atala. Et toujours, elle est représentée avec une croix. Et Atala suscite toutes sortes de spectacles. On la représente en cire, on la représente au théâtre, on la représente... Mais surtout, est-ce que nous ne savons plus faire aujourd'hui ? C'est-à-dire que lorsqu'un grand livre, et celui-là est marquant, 1801, un an avant le génie du christianisme, 1801, eh bien, les horlogers, les manufacturiers de Creil et de Montereau, les fabricants d'estampes et de lithographie, etc., s'emparent de ce thème et en font des pendules, des assiettes, des lithographies, des estampes, etc., etc. Donc, nous avons là une très très belle collection de toutes sortes qui naît de cette époque-là, trois pendules, qui à chaque fois reprend le même épisode. C'est Atala qui vient délivrer son amant, Chactas, l'Indien, mais l'arbre n'est jamais le même, il y a des nuances, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Et puis, il y a aussi l'évocation, et nous allons, en juin, début juin, présenter les plus belles acquisitions de la Vallée aux Loups depuis 20 ans. Et je dois dire qu'avec mes collaborateurs, ce fut un déchirement de savoir ce que nous allons garder pour cet album. Et il y a des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, un livre que tenait un ermite sur le mont Vésuve, où Chateaubriand s'est rendu et où il a mis sa signature. Mais il y a aussi des souvenirs historiques, et en particulier ceux de la duchesse de Berry, dont il a été le chantre, le défenseur, après 1830. Et une série que nous sommes en train de compléter, admirable, de porcelaines de la manufacture de Sèvres, qui ont été offertes par Louis XVIII. À l'époque, il y avait un ministère qui a disparu, qui était le ministère de la Maison du Roi, et donc qui s'occupait entre autres de cela. Et on offrait aux ambassadeurs, car ils étaient peu nombreux, on leur offrait un service complet. Et nous avons le service offert par Louis XVIII à Chateaubriand en 1822 pour son ambassade de Londres, et celle de 1828 par Charles X pour l'ambassade de Rome. Et vous imaginez ce que représente pour Chateaubriand, simple petit secrétaire, en 1803, près du canal Fèche, qu'il ne supporte pas, revenir à Rome et devenir ce qu'avait été le canal de Bernice au règne de Louis XVI, c'est-à-dire le roi de Rome. Et c'est comme cela qu'il est reconnu. Il donne à la France un éclat exceptionnel. Et donc ce service, ce sont bien sûr des assiettes, des dressoirs, une glacière qui est la dernière acquisition, qui est un rafraîchissoir, qui est magnifique, et qui montre l'extraordinaire dextérité. Ce sont des peintres miniaturistes qui ont été engagés par la manufacture et qui ont fait des choses étonnantes et que on ne saurait plus, à mon avis, refaire aujourd'hui. Donc il y a cela. Et puis, que dire d'autre ? Eh bien, aussi évoquer la personnalité ô combien attachante de Juliette Récamier. Car Juliette Récamier, qui avait rencontré Chateaubriand sous le consulat, sous les auspices de Madame de Staël, eh bien, retrouve Chateaubriand lors d'un dîner funèbre. Elle ne peut pas assister au dîner, elle est malade, elle va mourir. Mais elle maintient ce qui était une grande, ce qui montre la grande dame, qui était Madame de Staël, elle maintient son dîner. Et elle place Chateaubriand à côté de Juliette. Et la rencontre se fait, et elle, jamais, en dépit du caractère volage de Chateaubriand, jamais ils ne se sépareront. Le salon de l'abbaye au bois, qui malheureusement a été en grande partie amputé, détruit au début du XXe siècle, eh bien, Juliette Récamier est venue ici à la Vallée aux Loups. Donc il était important d'évoquer aussi son passage, parce que les premières pages des mémoires de ma vie ont été écrites ici. Et Juliette les a recopiées à la Vallée aux Loups, qui appartenait à l'époque à un ami de Germaine de Staël, qui était Mathieu de Montmorency. Mathieu de Montmorency ensuite est mort en 1826, en odeur de sainteté, et ce sont les La Rochefoucauld d'Oudeauville qui ont gardé la maison pendant près d'un siècle. Et là, le miracle de cette maison, c'est que le petit nombre de propriétaires, ensuite est venu le docteur Le Savoureux et le Conseil général des Hauts-de-Seine, c'est d'avoir protégé constamment ce lieu qui aurait pu être menacé par l'urbanisation, par les aménagements routiers, par... Non. Et vraiment, il y a de la part du Conseil général, mais ce n'est pas... c'est vrai depuis 30 ans. C'est cette volonté de conserver, d'entretenir et de compléter, et ça c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est-à-dire que Chateaubriand est botaniste, je le disais. C'est-à-dire que j'ai recherché partout où je le pouvais, dans ses œuvres, des noms de plantes. Souvent, il les donne dans leur nom latin. Et de retrouver, par exemple, la Tulipa sylvestris, qui est la première tulipe originaire. Elle est toute simple et sa fleur est jaune. Bon. Eh bien, il la cite dans l'essai sur les révolutions que je citais tout à l'heure, de 1797, lorsqu'il va herboriser aux environs de Londres, qui à l'époque n'était pas une ville industrielle et urbaine. On sortait de la ville et on trouvait la campagne. Eh bien, il parle de la Tulipa sylvestris. Elle est présente dans le parc. Donc, au-delà des cèdres, des cyprès chauves, des tulipiers, du magnolia offert par Joséphine de Beauharnais venant des serres de Malmaison. Bon, tout cela, c'est le paysage de Chateaubriand et, je dirais, le paysage intérieur, tant il est attaché à tout ce qui est les arbres. Il dit les hommes commettront de grandes erreurs s'ils détruisent cette nature. Et ça, c'est dans un discours sur le budget, alors qu'il est membre de la Chambre des Pairs. Eh bien, il dit cela, les hommes le regretteront. Et il célèbre Colbert, qui a su planter de grandes forêts, celle du Coudray, par exemple, ou d'autres. Donc, il y a même, si je puis dire, presque chez Chateaubriand, un écologiste qui sommeille, en tout cas qui a conscience qu'il faut, et un amour de la nature et des arbres, qui vient sans doute de Jean-Jacques Rousseau, mais lorsqu'il plante ses arbres et qu'il les élève avant de les quitter, il dit « ces arbres sont ma seule famille ».
Vous évoquiez des personnalités, la Madame de Récamier, la Duchesse de Berry. Ce jardin a-t-il vu d'autres personnalités? Venait-elle volontiers ici?
Alors, Chateaubriand s'installe en 1807 et il quitte cette maison avec un déchirement de cœur, à tel point que les mémoires d'Outre-Tombre commencent par l'évocation de la Vallée aux Loups. Alors, le lieu est célèbre. Et il raconte de manière un peu plaisante que Metternich, à Vienne, qui ne l'aime pas, dit qu'il est au centre, dans une petite île, entourée d'eau, et que s'il ne souhaite pas recevoir un visiteur, il dit non, et donc le pont-levis se relève. Donc, le lieu est célèbre dans toute l'Europe. Alors, qui reçoit-il ? Eh bien, dans ce désert qui voulait être un désert au sens spirituel du terme, dans ce désert, eh bien, il reçoit, au grand désappointement de Madame de Chateaubriand, celle qu'elle appelle dans ses cahiers les belles madames, il y en a quelques-unes. Bon. Madame de Boigne, qui est une mémorialiste extraordinaire, n'est pas trop loin. Elle a un château à la Roseraie, à un kilomètre d'ici. Et puis, les dignitaires de l'Empire viennent aussi. Par exemple, Pasquier viendra, ou Mollet, qui ont des grands emplois sous l'Empire. Fontane aussi, qui est un poète oublié, qui a joué un très grand rôle aussi dans la réforme de l'université, qui a été le premier à faire un grand discours en l'honneur de Washington, qui est un personnage que Chateaubriand avait rencontré à Londres, qui est un ami de longue date, les Joubert. Et puis, et c'est pourquoi nous l'évoquons dans cette maison, le 4 septembre, eh bien, c'est la fête. C'est la Saint-François, c'est la fête de Chateaubriand. Et il réunit 6 personnes, pas plus. Et donc, dans cette salle à manger, il y a 6 couverts qui sont dressés un peu. Et l'idée, je le reconnais, m'en est venue, puisque j'ai tout de même joué un rôle non négligeable dans l'aménagement de cette maison, dans la décoration, dans le choix des papiers peints, parce que je cherchais à retrouver ce qui était vraiment l'atmosphère, l'ambiance de ce lieu. Eh bien, ces 6 couverts sont dressés pour les amis de Chateaubriand. Et donc, il y avait en particulier les Joubert et Joseph Joubert, qui reste un philosophe spiritualiste. Chateaubriand dit de lui que c'est un Platon à cœur de La Fontaine. Bon. Et il s'est rendu, parce qu'il lui avait été originaire de Villeneuve-sur-Yonne, et bien il s'est rendu à plusieurs reprises. Et c'est grâce à lui qu'il a rencontré une femme qui joue un rôle important dans les débuts du consulat, dans les années 1800, 1801, 1802, c'est Pauline de Beaumont, la fille du comte de Montmorin, qui avait été ministre de Louis XVI et qui a été massacrée lors des émeutes de septembre 92, abandonnée seule, vivant dans un château où tout le monde l'avait quittée. Et c'est Joubert qui vient à son aide, qui la présente à Chateaubriand, et elle va recréer l'un des premiers salons après la coupure de la Révolution, après Madame du Deffand, après Madame Geoffrin ou d'autres. Elle recrée un salon, et donc cette sorte de convivialité civilisée, de haute culture, où elle réunit effectivement des gens comme Pasquier, Fontane, Joubert, Chateaubriand et d'autres. C'est vraiment une société qui se recrée après la Révolution. Et Chateaubriand en est évidemment le grand maître.
Chateaubriand, un homme politique et engagé, alors quelquefois en sa défaveur, en 1816, radié de la liste des ministres d'État, il est alors contraint de vendre sa bibliothèque.
Oui, alors, Chateaubriand est indépendant. Que voulez-vous ? Et lorsque Louis XVIII dissout la Chambre introuvable, qui à contre-courant d'ailleurs avait été beaucoup plus libéral que ne l'était Decazes, mais Decazes était le favori de Louis XVIII. Un favori très, très puissant, très influent, que Louis XVIII appelle « mon fils, mon très cher fils ». Enfin vraiment, il ne s'en détachera qu'avec beaucoup de difficultés. Eh bien, il écrit un pamphlet admirable, qui s'appelle « De la monarchie selon la charte ». Alors, il y a une partie qui est pamphlet. Bon, et Chateaubriand est un homme qui écrit, par exemple, sous la monarchie de Juillet, qui écrit la Daumier. Bon, nous avons fait une exposition, d'ailleurs, sur Daumier, les caricatures de l'époque 1830-1835, et Chateaubriand, parce qu'il y a une correspondance entre les deux. Et en même temps, qui est un grand traité de droit constitutionnel sur ce que doit devenir la monarchie restaurée, c'est-à-dire devenir un régime représentatif. Et sa définition du fonctionnement des institutions, des rouages des institutions, le rôle qu'il donne à l'opinion et à la liberté de la presse, à laquelle il va vraiment consacrer toute sa carrière à l'époque de la Restauration, en disant que c'est devenu presque son unique conviction. Eh bien, lui vaut effectivement des revers de fortune. C'est-à-dire que Decazes obtient sa radiation de ministre d'État, qui était en fait une sinécure, parce que c'était pas. Il y avait un ministère, puis un ministère d'État qu'avait créé Talleyrand, qui était le premier président du Conseil sous la Restauration, et qu'il avait créé, en fait, il a été supprimé par Louis-Philippe, c'était en fait une sinécure, c'est-à-dire il ne s'est jamais réuni, mais il lui permettait de recevoir une pension. Mais il est resté pair de France, malgré tout. Mais Chateaubriand dépense, parfois on se demande à quoi il dépense et à quoi il consacre toute cette somme. Toujours est-il qu'en 1817, il se retrouve sans argent, endetté. Madame de Choiseul lui avait prêté des sommes pour restaurer sa maison et l'embellir, et il se trouve sans argent. Et Madame de Chateaubriand, qui en fait était une épouse de convention, mais qui lui restait très fidèle, et finalement on aurait tort de considérer que, bien sûr, il lui a été infidèle, c'est certain. Et donc on dit, oh, mais Chateaubriand écrit sur le mariage des pages admirables dans le génie du christianisme. C'est vrai qu'il lui a été infidèle. Mais en même temps, il lui est resté fidèle jusqu'à sa mort. Et il y avait une sorte d'amitié, de tendresse que les contemporains disent. Donc, il doit quitter cette vallée, sa chère vallée, endettée. Et il se demande comment la vendre. Et il estime que, étant un écrivain célèbre, tout le monde va se précipiter pour souscrire des billets au terme d'une loterie. Il commet une erreur monumentale, c'est-à-dire que Decazes est tout puissant, les courtisans se rencoignent et n'osent pas manifester leur intérêt, et donc il y a deux souscriptions de 1 000 euros, alors qu'il en attendait 100 000. Donc, échec de cette loterie, et Madame Récamier, qui donc, en 1817, apparaît comme un astre auprès de Chateaubriand, va obtenir de Mathieu de Montmorency, qui sera ministre des Affaires étrangères sous Villèle, Chateaubriand lui succédera en 1823, pour cette guerre d'Espagne, eh bien, à Mathieu de Montmorency, d'acheter cette maison. Donc il y aura une vente aux chandelles, il n'y aura pas d'enchérisseur, et la maison passera entre les mains de Mathieu de Montmorency. Donc c'est vraiment un moment qui marque une rupture dans sa vie, parce qu'elle redevient nomade. Alors qu'ici, il a écrit Les Martyrs, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, Les Aventures du dernier avant-serrage, qui est une œuvre magnifique qu'il reprendra dans ses œuvres complètes, mais qu'il aime lire, parce que c'est un lecteur. Et lorsque nous faisons ici les heures romantiques de la Vallée aux Loups, au printemps et à l'automne, eh bien nous faisons entendre Chateaubriand. Et entendre Chateaubriand, c'est le faire entendre par la voix, c'est pas simplement le faire lire. Et donc, il est fait pour être, non pas déclamé, mais pour être lu et entendu. Et c'est cela qui vraiment nous motive les uns et les autres, puisque depuis 1987, nous organisons des spectacles que j'ai appelés « Heures romantiques », où constamment nous marions les textes et la musique. C'est-à-dire telle personne qui a fréquenté l'abbaye au bois de Madame Récamier elle-même, les musiciens. Cette année, Eh bien, nous allons évoquer Velleda, parce que je n'en ai pas dit un mot, mais dans le parc, il y a une petite tour. C'est là que Chateaubriand avait sa bibliothèque, c'est là qu'il écrivait. Et le docteur Le Savoureux l'a dénommé Velleda parce que c'est un personnage symbolique, c'est une druidesse à la faucille d'or, admirablement belle, qui surgit dans les martyrs et qui subjugue Eudore, qui lui est converti à la religion chrétienne. Donc on retrouve toujours ces éléments-là, c'est une épopée chrétienne et lyrique. Et donc la tour Velleda est aussi un lieu qu'il faut voir, qui est noyé dans le parc, entouré de mélèzes, dans cet endroit sombre, là où il s'est retiré pour écrire. Donc tout cela fait que bien Chateaubriand va commencer une période d'errance, il ira en Normandie pour auprès de parents, de cousins qui lui offrent l'hospitalité. Mais la vallée au Loup restera toujours vraiment au cœur de sa vie, dans sa pensée, le grand regret et le paradis perdu.
François-René de Chateaubriand aura donc vécu 80 ans d'histoire d'errance, traversé les régimes politiques, voyagé sur tous les continents, et c'est sur cette terre, à la vallée au Loup, que vous pourrez découvrir l'homme et le site exceptionnel, la richesse et l'aura du grand maître qui règne encore ici. Je rappelle que nous nous situons à Châtenay-Malabry, à 1 heure seulement de Paris, même pas, et que le musée reste bien entendu ouvert au public du mardi au dimanche. N'oublions pas que François-René de Chateaubriand a été élu à l'Académie française le 20 février 1811. Et nous remercions très chaleureusement Monsieur Clément pour ce témoignage. Je rappelle aussi à nos internautes qu'ils peuvent télécharger notre émission gratuitement sur canalacademy.com. À bientôt.